Nous commençons donc, comme je l'avais annoncé il y a quelques semaines, je crois il y a 2 semaines, une série de prédications dans l'évangile de Matthieu. Et je vais lire le premier verset, Matthieu chapitre 1, verset 1. Je vais lire ce verset dans la traduction Darby et le reste des citations seront lues dans la seconde 21. Je lis donc ce premier verset, Matthieu 1, verset 1. « Livre de la généalogie de Jésus, Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. » Je relis. « Livre de la généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. » Quel est l'homme qui dirige le monde? Qui est celui qui domine notre planète? C'est une question qui est beaucoup plus légitime et beaucoup plus profonde qu'en apparence. On pourrait la poser autrement. Qui est en charge de conduire l'humanité, de juger les hommes avec justice, de manière impartiale? Ou encore, qui est celui qui peut nous montrer le chemin du bonheur, le chemin de la justice? Et je crois que ces questions sont véritablement l'écho de l'aspiration de tout être humain. L'aspiration des cœurs des hommes. Nous recherchons en réalité tous un leader, un modèle, un conducteur. Il suffit de regarder dans le monde de la politique, hein. On a beau dire depuis des décennies, en France en particulier, mais je dirais en Occident de manière générale, tous corrompus, tous pourris, et nous continuons pourtant d'attendre et de voter, même si le nombre de personnes votant diminue, mais nous attendons toujours quelque chose des élections. Nous attendons toujours cet homme ou cette femme providentielle que l'on va placer à la tête de notre nation pour nous peut-être conduire vers un avenir plus juste, plus épanouissant. Alors peut-être certains ne se sentent pas concernés et se disent « Non, moi, pas concerné par la question politique. » Eh bien, on peut le trouver dans d'autres domaines, cette recherche d'un leader, d'un conducteur. Regardez maintenant ce qui est à la mode. Alors je ne suis pas au fait, et Emeline, qui est au lycée, peut-être me corrigera. Je pense que tu connais mieux que moi, mais les influenceurs.
Oui.
Ok. Il paraît que c'est une nouvelle mode, n'est-ce pas, de ces personnes qui, sur Internet, nous disent quoi penser, comment penser aux sujets divers, hein, des sujets divers, que ce soit la politique, la culture, le sport, l'art, peu importe. On les écoute attentivement et on espère qu'ils nous guideront vers une sorte de sagesse, hein, une manière de nous conduire, de faire des choix, peut-être, qui nous rendront plus heureux. D'autres se tournent vers des penseurs, vers des écrivains. On cherche le philosophe, le maître à penser. D'autres sont fans peut-être et font tourner leur vie autour d'une célébrité. Alors, c'est plus trop d'actualité, mais fut un temps, c'était d'actualité. D'autres encore se tournent vers des spécialistes. C'est ce qu'on a vu, n'est-ce pas, dans le fort de la période Covid, où les experts étaient vu comme une sorte de caste toute particulière, de laquelle on attendait presque notre salut. Et donc je repose la question, quel est l'homme dont notre bonheur, dont notre avenir dépend? Pour le connaître, pour savoir de qui il s'agit, il nous faudrait éventuellement une biographie. Ce serait un bon départ, n'est-ce pas? Si nous avions un livre qui nous décrivait la vie de cet homme, nous pourrions facilement le connaître et avoir recours à lui, faire appel à lui. Et il ne nous faudrait pas n'importe quelle sorte de biographie, il nous faudrait une biographie qui soit fiable, autorisée, entre guillemets. Et c'est ce que nous avons dans l'évangile de Matthieu. Matthieu nous répond, dès le premier verset, « Généalogie de Jésus-Christ » ou « Livre de la généalogie de Jésus-Christ ». fils de David, fils d'Abraham. Et j'aimerais voir avec vous deux points avant de donner quelques applications. Le premier point, nous avons là, dans l'évangile, selon Matthieu, la biographie de cet homme qui dirige et qui doit diriger notre monde. Deuxième point, nous verrons que Jésus-Christ est le Christ, justement, le choix de Dieu, celui que Dieu a établi pour régner. Premièrement, donc, une biographie. Elle est écrite par Matthieu, qui était un des disciples, un des apôtres même de Jésus-Christ, qui lui est resté fidèle avec 10 autres, contrairement à Judas. Et le Seigneur Jésus avait fait une promesse particulière aux apôtres, on ne va pas le lire maintenant, mais vous pouvez lire dans les chapitres 14, 15 et 16, le Seigneur s'adresse aux apôtres restés fidèles et leur promet une aide toute particulière. Une aide d'ailleurs que vous et moi, nous n'avons pas parce que nous ne sommes pas apôtres. C'est celle de la conduite spéciale du Saint-Esprit qui devait leur rappeler toute vérité, leur en enseigner de nouvelles, de manière infaillible, pour qu'ils nous transmettent cette foi qui est donnée une fois pour toutes, n'est-ce pas, pour les saints. Dans un sens, donc, quand nous approchons cette biographie de Matthieu, nous approchons une biographie différente de ce que nous pourrions trouver sur la Terre quand nous regardons d'autres biographies. Vous en avez certainement lu, des biographies d'hommes célèbres, de femmes qui ont marqué l'histoire. Mais une des différences marquantes, c'est que chacune de ces personnes dont on a écrit une biographie, si elle avait la possibilité de faire des commentaires, souhaiterait modifier beaucoup de choses, soit pour en ajouter, soit pour en enlever. Parce qu'il n'existe aucune biographie, la plupart du temps, qui soit, je dirais, du goût de celui, tout à fait, du goût de celui ou de celle dont on fait la biographie. Et ceux qui ne voudraient rien changer, certainement ne voudraient rien changer, non pas parce que cette biographie est la pure vérité, mais souvent parce qu'elle embellit un peu ce qu'ils ont été. Mais si Jésus-Christ devait revenir à l'époque de Matthieu, prendre la plume à la place de son apôtre, écrire le récit de sa vie, nous ne trouverions rien qui soit en contradiction avec ce que nous avons ici dans l'Évangile selon Matthieu. Nous ne trouverions rien de différent parce que Christ lui-même, qui était rempli de l'Esprit de vérité, a baptisé les apôtres, et en particulier Matthieu, de ce même Esprit de vérité qui a présidé, on pourrait dire, et qui a veillé à l'écriture, à la rédaction de cette biographie du Seigneur Jésus. Et peut-être vous pourriez vous demander actuellement, en m'entendant, et alors ? Où est-ce que tu veux nous emmener ? Nous savons déjà que cet évangile est inspiré. Eh bien, je pense que une des implications de cela, c'est que la réponse logique à ce que nous lisons dans cet évangile, c'est la foi. Si tout ce qui est contenu dans cet évangile n'est que vérité, le bon sens, c'est de lire ce texte ou de l'entendre être lu et d'y accorder une foi sans réserve. C'est l'Esprit de vérité lui-même qui a présidé à la rédaction de ce livre. D'un autre côté, cette biographie ressemble à toute autre biographie. Je vous ai montré ici une différence, le fait qu'il soit un texte inspiré, mais on doit s'attendre à trouver des éléments de la vie de Jésus-Christ, et notamment des éléments essentiels qui nous permettent de connaître qui il est, ce qu'il a dit, ce qu'il a fait. Il est le centre de ce livre. Et comme toute biographie, il ne s'agit ni d'une allégorie, ni d'une fiction. Nous lisons l'évangile de Jésus-Christ qui s'ouvre avec ces mots, livre de la généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham, ce qui nous indique que c'est ancré dans l'histoire. Et je finis ce premier point sur le fait qu'il s'agit là d'une biographie, en notant une dernière chose. Ce livre est un livre saint. Ça ne se voit peut-être pas ici avec cette traduction qui est affichée, mais du coup la version que j'ai lue, qui est la traduction Darby, est plus littérale, et elle dit « livre de la généalogie ». Alors peut-être vous vous demandez, mais est-ce que c'est pas un peu chipoté ? En fait, pas du tout. Parce que le mot que Matthieu utilise pour « livre », il en existe plusieurs en grec, mais il utilise là un mot qui est systématiquement utilisé dans le Nouveau Testament pour désigner des écrits religieux. C'est utilisé à peu près une quinzaine de fois, et une seule fois pour désigner des livres de magie, qui sont aussi des livres religieux, n'est-ce pas, mais inspirés par le diable. Et toutes les autres fois, ce mot « biblos », qui a donné notre mot en français « Bible », est utilisé dans le Nouveau Testament pour désigner les écrits des prophètes. Autrement dit, lorsque Matthieu commence son évangile, il veut faire comprendre au lecteur « Vous n'êtes pas en train de lire un simple récit d'une vie. Vous êtes en train de lire le récit d'une vie qui vous met en relation avec Dieu. Un récit saint, un récit religieux. » Pourquoi est-ce que ce point est important à noter, alors que nous commençons cette série ? Eh bien, il est important parce que notre relation avec Dieu dépend forcément de la manière dont nous écoutons ce que Dieu nous dit. Et j'aimerais citer ici J.C. Ryle, qui était un pasteur du 19e siècle, et il dit ceci au sujet de la Bible, et en particulier de l'Évangile selon Matthieu. Il disait... Le plus pauvre paysan d'Angleterre qui maîtrise et connaît l'évangile selon Matthieu est plus enseigné, plus sage en religion que le plus sage des philosophes grecs ou romains. Et il y a quelque chose d'encourageant, je ne sais pas pour vous, mais moi je trouve qu'il y a quelque chose ici de précieux. Nous sommes devant un texte qui nous met directement en relation avec la pensée de Dieu, le cœur de Dieu. Ok, pour ce premier point. Deuxième point, Jésus est le Christ, le fils de David, le fils d'Abraham. Certains se demandent peut-être, ou ont peut-être l'impression que fils de David, fils d'Abraham, oui, c'est donc le peuple juif, je ne me sens pas tout à fait concerné, si vous n'êtes pas juif. Mais j'aimerais vous montrer maintenant que cette expression qu'on pourrait prendre un peu comme le titre, finalement, de l'évangile selon Matthieu, c'est la première phrase, on pourrait prendre ça comme un titre, eh bien, Matthieu indique ici que Jésus est celui désigné par Dieu pour régner sur toutes les nations, et non pas seulement sur Israël. Je répète. Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham, signifie que Jésus est l'homme désigné par Dieu pour dominer sur l'humanité entière, sur toutes les nations, et non pas seulement sur Israël. D'abord, il est appelé Christ. Christ, ou Messie, c'est le même mot, l'un est grec, l'autre est hébreu, ça signifie celui qui est oint, celui sur qui on verse de l'huile. Et dans le Moyen-Orient ancien et en Israël, à l'époque des prophètes notamment, on désignait le roi, on l'instituait en lui versant de l'huile sur la tête. C'était une cérémonie, un rituel symbolique qui symbolisait la faveur de Dieu. L'huile, et notamment l'huile d'olive, était vue comme un liquide précieux, un liquide d'honneur. Et du coup, lorsque le roi devait entrer en fonction, il y avait cette cérémonie où le prophète venait avec souvent une corne vidée, et il versait de l'huile sur la tête du roi. C'est une façon de dire, Dieu prend plaisir et déverse sur toi sa faveur, plus que sur tout autre homme. Le roi était ainsi oint, mais aussi le grand prêtre, le sacrificateur, celui chargé d'être le médiateur entre le peuple et Dieu. Et donc, lorsque Jésus est appelé Christ, Dieu nous dit par là, il est le roi des rois, le oint des oints, le choisi des choisis. Maintenant, peut-être vous ne voyez pas encore le rapport avec les nations. Je propose d'ouvrir dans le psaume 2 vos Bibles. Et nous allons passer au deuxième titre. Je vous ai dit que Christ, donc, c'est le Messie. Et l'Ancien Testament est rempli de prophéties qui nous disaient que le Messie devait descendre de la lignée de David et de la lignée d'Abraham. Prenons donc d'abord le psaume 2. Un psaume écrit au sujet d'un descendant de David qui doit régner. Et voilà ce que nous lisons. Je vais lire les versets 1 et 3 pour commencer. 1 à 3, pardon. Pourquoi cette agitation parmi les nations ? Ah, premier indice, on parle des nations ici et pas seulement du peuple d'Israël. Et ces préoccupations dépourvues de sens parmi les peuples. Les rois de la terre se soulèvent. Et les chefs se liguent ensemble contre l'Éternel et contre celui qu'il a désigné par onction. Arrachons leurs liens, disent les rois. Jetons leurs chaînes loin de nous. Ici, nous avons le tableau des rois de la terre qui refusent cet homme choisi par Dieu, qui refusent de se soumettre à lui, qui en fait rejette Dieu en rejetant celui qui représente Dieu sur la terre. Je vais un peu plus loin, à partir du verset 7. C'est ce roi qui, d'avance, prophétise. Hein, c'est comme si Jésus parlait d'avance dans le psaume. Et il dit au verset 7 et suivant, « Je veux proclamer le décret de l'Éternel. Il m'a dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui, en référence à la résurrection. Demande-le-moi. » Et je te donnerai les nations en héritage, les extrémités de la terre en possession. Jusque-là la lecture. Ce n'est ici qu'une prophétie parmi des dizaines que l'on trouve dans l'Ancien Testament. Le fils de David est appelé non seulement à être roi au-dessus d'Israël, mais roi au-dessus de la France, pour rendre les choses un peu plus concrètes et nous interpeller. Il est appelé à être roi au-dessus des États-Unis, du Congo, de la Chine, de l'Arabie Saoudite. Et il n'existe pas un seul pays sur la terre qui ne soit pas contenu entre l'une des extrémités de la terre et l'autre, n'est-ce pas ? Pour le dire autrement, puisque Dieu dit « Demande-le-moi et je te donnerai les extrémités de la terre en héritage », il est en train de lui dire « Demande-le-moi et je te donnerai le monde entier pour toi ». Quelques mots avant de passer à l'expression « fils d'Abraham ». Fils de David, donc, on a compris, c'est un roi, le Messie annoncé. Et il y avait deux caractéristiques principales à son règne. Ça devait être un règne de justice, une justice qui libère, et une justice qui rétribue. Une justice qui sauve, qui libère son peuple, et une justice qui punit et rend la monnaie, entre guillemets, de la pièce de ceux qui restent opposés à ce règne. Et enfin, on nous dit dans les prophètes que ce règne devait être sans fin. Éternel. Car malgré l'annonce de sa mort et malgré le fait que Jésus-Christ soit crucifié, les prophètes ont annoncé quelque chose dont Matthieu est témoin. Il devait ressusciter pour ne plus jamais goûter la mort. Pensons-le autrement. Si Christ n'est pas ressuscité, alors il n'y a pas d'évangile de Matthieu. Matthieu n'a rien à raconter qui soit utile. Mais c'est justement parce qu'il est témoin du Christ ressuscité que Matthieu a été conduit par l'Esprit de Dieu à nous parler de cet homme qui revient bientôt pour régner pleinement sur toutes les nations. À ce stade, on pourrait se demander à nouveau, et alors ? Eh bien, je dis, et alors, nous sommes exhortés probablement à la repentance. À la repentance d'un mode de vie qui ne tient pas compte de la seigneurie, ou qui ne tient pas suffisamment compte de la seigneurie de Christ. Qui ne tient pas suffisamment compte que le monde tourne autour de Jésus-Christ. Que l'histoire des hommes a son centre en Jésus-Christ, celui désigné par Dieu pour régner sur l'humanité, pour être le juge des vivants et des morts, pour récompenser ceux qui contribuent à son règne et rétribuer ceux qui s'y opposent. Repentons-nous pour tous nos actes, nos pensées et nos paroles qui n'ont pas contribué à la venue de ce règne, mais l'ont contrarié ou contredit au moins. Nous parlons ici d'un roi, du roi de l'univers. Et c'est vrai que nous ne sommes plus très familiers au XXIe siècle, et notamment en Occident, avec la notion de roi. Mais lorsque le roi parle, un vrai roi, il y a deux options. J'obéis et je vis, je m'oppose et je meurs. Ces paroles paraissent sévères, mais ce n'est pas sévère. C'est juste une réalité à laquelle nous ne sommes plus très habitués. Et ça semble un peu rugueux, du coup. Mais lorsque Christ revient, ce n'est plus pour discuter ni pour mourir, mais c'est pour établir son règne. Ok, je crois que c'est suffisant pour l'expression « fils de David ». Fils d'Abraham, maintenant, je serai un peu plus rapide là-dessus. Ça nous parle aussi du fait que le Messie doit avoir une domination sur toutes les nations. Prenez avec moi, s'il vous plaît, dans Genèse, chapitre 22, le verset 18. Genèse 22, verset 18. Nous sommes quelques instants après qu'Abraham ait accepté par confiance en Dieu, de sacrifier Isaac, son fils unique, aux yeux de Dieu. Il a accepté parce qu'il avait confiance que Dieu pouvait le ressusciter, nous dit la lettre aux Hébreux. Et juste après cet acte d'obéissance, où l'ange de l'Éternel intervient et lui dit « Non, Abraham, j'ai vu que tu es obéissant. Voilà un bélier, sacrifie-le plutôt. » Voilà ce que nous lisons, verset 18. Ou prenons-le peut-être juste avant encore. Prenons à partir du verset 15. « L'ange de l'Éternel appela une deuxième fois Abraham depuis le ciel. Il dit, « Je le jure par moi-même, déclaration de l'Éternel, parce que tu as fait cela et que tu n'as pas refusé ton fils unique, je te bénirai et je multiplierai ta descendance. Elle sera aussi nombreuse que les étoiles du ciel. » Pareil au sable qui est au bord de la mer. De plus, ta descendance possédera les villes de ses ennemis. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta descendance parce que tu m'as obéi. Et on se demande, qui est cette descendance ? Et l'apôtre Paul répond de manière explicite. Il s'agit d'une descendance, et plus précisément d'un descendant, le Christ. Prenons un deuxième texte pour confirmer ce qui est dit concernant le Messie, qui doit être une source de bénédiction pour toutes les nations. Acte 3, je vous fais un peu voyager dans les Écritures, mais ce sont des, je pense, fondements pour cette série d'enseignements sur Matthieu qui sont utiles pour avoir ensuite des repères. En quelque sorte, Matthieu, par ce premier verset, nous donne un peu le programme de cette biographie ou la clé de lecture de cette biographie. Acte 3, versets 24 à 26. Est-ce que quelqu'un, pour couper un peu la monotonie peut-être de ma voix, peut lire versets 24 à 26 ? Merci. 26 aussi, oui, vas-y.
C'est à vous, premièrement, que Dieu, après avoir suscité son serviteur, l'a envoyé pour vous bénir en détournant chacun de vous de ses iniquités.
Merci. Nous voyons une deuxième caractéristique concernant ce Messie. Que signifie qu'il est fils d'Abraham ? Cela signifie qu'il est censé être une source de bénédiction pour les nations et une source de bénédiction d'abord spirituel. On l'a lu dans les Actes, il s'agit de détourner de nos mauvaises actions, d'être détourné de nos mauvaises actions par l'œuvre de ce fils d'Abraham, dont tous les prophètes ont parlé. Je ne rentrerai pas dans les détails de comment est-ce que ce fils d'Abraham nous détourne de nos mauvaises actions, mais je dirais simplement qu'il s'agit ici tout simplement de la croix de Jésus-Christ, sa mort substitutive. Il absorbe la malédiction de nos péchés, et non pas de ses péchés, lui qui est parfait. Et en absorbant la malédiction qui devait tomber sur nous, il nous rend, entre guillemets, oui, disponible pour recevoir ce qui reste à Dieu, c'est-à-dire sa bénédiction. Ou pour le dire autrement, le courroux de Dieu est allumé contre nous, prêt à faire feu à cause de nos fautes, et voilà que le Christ détourne le canon du courroux de la sainte justice de Dieu pour être la cible de cette justice divine. Il n'y a plus de canon en face de nous. La voie est libre pour recevoir et nous approcher de la bénédiction de Dieu. Je vais prendre une autre image. Souvenez-vous de l'onction, on verse l'huile, n'est-ce pas, sur la tête. Et si Christ est la tête sur laquelle l'huile coule, nous sommes le corps qui recevons, étant unis avec lui, la bénédiction et la faveur de Dieu. Oh, que personne ne se prive de mettre sa vie dans le bon sens, dans la bonne orientation, de mettre au centre de sa vie, et plusieurs d'entre vous, ici, la majorité, certainement, vous l'avez déjà fait, je n'ai pas de doute là-dessus, mais que personne ne se prive de vivre selon cette réalité qui est la réalité, que Christ est le centre, la source de la bénédiction et de la félicité, de la joie éternelle, de la réconciliation avec Dieu. Et pas seulement pour nous, mais pour toutes les nations. C'est la fin du deuxième point, et j'en viens à quelques applications pour nous. Trois paroles d'abord de ce qu'on appelle doxologie. Ça paraît un mot compliqué, mais c'est simple. Doxologie, doxa, c'est la gloire, et logie, ça vient de logos, la parole. Donc trois paroles pour glorifier Dieu. Trois paroles de doxologie en lien avec ce que nous avons entendu. Le fait que Jésus est le Messie de Dieu, fils de David pour la justice, fils d'Abraham pour la bénédiction. Première parole de gloire à Dieu, première doxologie, admirons Dieu et adorons Dieu pour la ténacité de sa parole, pour l'endurance de sa parole. Louons-le parce que son plan s'est déployé pendant des siècles. Je veux rendre la chose évidente avec des chiffres. Est-ce que vous savez combien de siècles avant Jésus, David a-t-il vécu et reçu ses prophéties au sujet de son descendant? Combien? À peu près 1000 ans, oui. Autour de 900 ans, effectivement. 9 siècles. Et ce n'est pas que l'humanité a été un peu lente à coopérer. L'humanité a plutôt tout fait, volontairement et involontairement, pour frustrer les plans de Dieu. Frustrer le plan de Dieu de faire venir son Messie et de sauver les pécheurs. Abraham, maintenant. Combien de temps avant Jésus-Christ?
3000 ans.
Un peu moins. Autour de 2000 ans avant Jésus-Christ. Près de 20 siècles. Je ne sais pas si on se figure. 20 siècles. La parole est donnée. Et siècle après siècle, l'attente est là, souvent frustrée, parce que des rois se succèdent et on espère en eux et ils déçoivent, tôt ou tard, même David. Mais voilà que 20 siècles plus tard, la parole de Dieu reste ferme et s'accomplit. Louons Dieu et glorifions Dieu pour la ténacité de sa parole. Elle est comme cette montagne posée dans ce domaine, dans cette région du monde. Regardez-la aujourd'hui. Revenez dans 2000 ans et vous la trouverez au même endroit. Ainsi la parole de Dieu est ferme et inébranlable. Deuxième parole de gloire que nous voulons rendre à Dieu, adorons Dieu pour son autorité sur les hommes. Il n'a pas consulté quiconque d'entre nous, ni quiconque d'entre nos prédécesseurs, et heureusement. Parce que dans notre folie, nous aurions rejoint cette coalition dont nous avons entendu parler dans le psaume 2, cette coalition de rois et de nations qui s'oppose au Messie de Dieu, qui est pourtant venu pour les sauver. Adorons Dieu pour son autorité sur les hommes. Et enfin, célébrons Christ, le chef suprême de toute nation. C'est lui qui indique qui est le peuple de Dieu. C'est lui qui délimite, qui fait partie des ennemis de Dieu. Il est, ce critère discriminant qui met à gauche certains et met à droite les autres. C'est lui l'autorité suprême au-dessus de toutes les nations. Enfin, maintenant, des paroles sur ce que nous devrions faire, en plus de rendre gloire à Dieu. Nous devrions changer notre regard, au moins, à quatre égards, on pourrait dire, sur quatre sujets. Un autre regard concernant l'autorité, d'abord. Ce que nous venons de voir ce matin nous indique qu'il n'y a aucune autorité sur la terre, nulle part, dans aucune nation, qui ne soit pas en dessous de l'autorité de Jésus-Christ lui-même. Il n'y a pas un président, pas un gouvernement, pas un roi qui n'ait de compte à rendre au roi des rois un jour. Les forces de l'ordre elles-mêmes, et là, deux d'entre nos frères se sentent particulièrement concernés, mais les forces de l'ordre elles-mêmes sont sous l'autorité du Christ. Qu'elles en soient conscientes ou non, elles exercent une autorité pour laquelle elles rendront des comptes à l'autorité des autorités. Et enfin, je prends un dernier exemple, dans nos familles, les parents, et en particulier les chefs de famille, nous ne devrions pas oublier que nous sommes une autorité sous une autre autorité beaucoup plus grande et parfaite à laquelle nous rendrons des comptes, Jésus-Christ. Deuxièmement, un autre regard aussi, nous devrions porter un autre regard sur les événements géopolitiques, sur les événements de notre monde. Et on se demande en ce moment, guerre entre la Russie et plusieurs pays, entre l'Ukraine, l'OTAN probablement. Est-on déjà dans la Troisième Guerre mondiale? Va-t-on y entrer? Crise économique, les prix qui flambent, manifestations à cause des retraites. Nous n'oublions pas non plus qu'il y a des guerres en ce moment dans d'autres pays. Et que sais-je encore? Vous connaissez autant que moi la situation de notre monde. Mais nous ferions une erreur en tant que chrétiens d'essayer d'analyser la situation actuelle sans tenir compte du fait que l'histoire va dans le sens du roi des rois. Nous ne le voyons pas toujours. Nous ne comprenons pas toujours les chemins que le Seigneur fait prendre à l'histoire des hommes, mais nous savons qu'il est celui qui tient le gouvernail. Il n'y en a pas deux, c'est Jésus-Christ, le roi des nations. Il y a là quelque chose, je pense, d'heureux pour nous, et qui doit nous sortir de l'anxiété, de la crainte que nous pouvons facilement laisser bondir sur nous parce que nous regardons la situation actuelle. N'oublions pas, Christ est aux commandes. Troisième regard, nous devrions avoir un regard différent concernant les étrangers. Nous devrions avoir un regard différent concernant ceux qui, pour nous, sont des étrangers. Qu'est-ce que je veux dire par là? La bénédiction de Christ, nous l'avons lu, Dieu a promis qu'elle devrait couler sur toutes les nations du monde. Ça veut dire que nous ne sommes pas en phase avec Jésus-Christ si nous sommes, si ça nous donne de l'urticaire de penser à certaines populations. Parce que Jésus-Christ veut les bénir et il veut en sauver parmi toutes. Enfin, et je finis avec ça, le fait que Jésus-Christ soit le fils de David, c'est-à-dire le roi de justice, qui vient pour libérer son peuple et qui vient pour rétribuer ceux qui s'opposent à son règne, le fait que Jésus-Christ soit le fils d'Abraham, venu pour bénir, être la source de bénédiction, la seule source de bénédiction pour les nations, nous laisse devant deux options. Et c'est de cette manière que nous devrions regarder nos vies et la vie de tous ceux qui nous entourent. Deux options. Ma vie s'oppose à ce règne, ou ma vie se soumet à ce règne. Ma vie contribue et participe à l'établissement de ce règne de justice, ce règne éternel, sans fin, inarrêtable, ou bien ma vie s'y oppose, tente de s'esquiver, de se soustraire à l'autorité du Christ, mais finira, quoi qu'il arrive, par être rappelé à la réalité. Christ règne sur toutes les nations jusqu'aux extrémités de la terre. Dieu les lui a donnés. Ce matin, j'espère que ces quelques mots d'introduction sur la série de l'Évangile selon Matthieu nous remuent un peu, ou nous boostent, ou nous replacent, nous recentrent là où nous devrions être, autour de Jésus-Christ, autour du roi, autour de son projet. Que Dieu bénisse sa parole, que Dieu nous bénisse par des pensées élevées au sujet de Jésus-Christ. Il est le roi des rois. Je propose de prier encore.